Bonjour et bienvenue dans ce Morning Bull un peu live. Nous sommes quelque part entre le 17 et le 18 mars et oui, je ne suis pas là. Enfin, je ne suis pas là en Suisse, hein. Je ne suis pas là à la maison pour vous donner votre pain quotidien parce qu'aussi fou que ça puisse paraître, des fois je suis en vacances, mais ça vous le savez. Sauf que là, depuis que je suis parti, ben, ça n'arrête pas de saigner partout et j'arrête pas d'entendre des voix paniquées qui proviennent des médias. Donc, avec l'hyperconnexion dans laquelle nous sommes en ce moment, c'est quand même difficile de ne pas entendre. J'ai donc décidé de prendre le temps de survoler un peu les news de ce lundi matin pour en savoir un peu plus sur ce qui se passe et pour essayer de me rapprocher un peu plus de ce bain de sang que comptent les médias financiers depuis quelques jours. Du coup, bah, ce matin, je ne vais pas vous faire une vidéo traditionnelle de ce qui s'est passé et de ce qui pourrait éventuellement se passer et revenir sur les gros événements du moment. Je vais juste essayer de vous livrer une petite réflexion de base qui me trotte dans la tête depuis que j'ai lu 3 articles en buvant mon café ce matin. Alors tout d'abord, oui, le S&P 500 est entré en territoire de correction la semaine dernière et oui, il en est ressorti avec les couvertures de short juste avant le week-end. Tout comme le Nasdaq, d'ailleurs, l'avait fait il y a quelques jours en arrière. Sauf que lui, le Nasdaq, il est toujours en zone de correction. La volatilité a fait des pics autour des 30%, mais ça se calme depuis quelques jours et le niveau de peur, selon les mesures de CNN, a atteint des niveaux extrêmes et s'y trouve toujours. Donc ça, c'est plutôt rassurant comme indication. Ensuite, lorsque je me balade sur les réseaux sociaux, je trouve une avalanche de personnes qui n'aiment pas le nouveau gouvernement américain, mais ça on peut le comprendre, et qui se délectent de la mauvaise performance du marché américain depuis que Trump est au pouvoir. Mais le raccourci est quand même toutefois un tout petit peu facile, voire même très souvent un peu trop facile. Faut donc peut-être pas non plus oublier qu'au début de l'année, avant que Trump soit à nouveau président, on se disait quand même que certaines parties du marché n'étaient quand même pas bon marché, n'étaient quand même très très chères. On pense assez facilement au fait que certaines sociétés liées à ce qu'on appelait à l'époque l'intelligence artificielle possédaient quand même des valorisations et des croissances attendues qui frisaient quand même l'indécence. Vous me direz pas le contraire. Alors oui, bien sûr, l'IA c'est l'avenir et on va tous devenir très très riches grâce à ça et ne plus jamais travailler, mais pourtant depuis quelques semaines on entend beaucoup moins de théories ultra convaincues sur le sujet, même si bien sûr et heureusement elles existent encore. Tout ça pour vous dire que le poids du secteur de l'intelligence artificielle qui s'est dégonflé rapidement et le poids des bailleurs de fonds de l'IA, ceux qu'on appelait à l'époque les Magnificent Seven, eh bien eux ils ont également aidé notre bon vieux marché à se replier à la vitesse de la lumière. Pourtant si on regarde dans d'autres zones du monde merveilleux de l'investissement, ça va quand même beaucoup moins mal que dans le secteur de la technologie. Si vous avez un portefeuille diversifié, vous vous rendrez compte que finalement, ça va. 10% de baisse sur le S&P 500, 12% de baisse sur le Nasdaq, ça va. Si vous prenez la performance hebdomadaire des indices principaux et que vous fouillez un peu à l'intérieur des hausses et des baisses, et ben vous verrez que le tableau est quand même beaucoup, beaucoup moins noir que ce qu'on veut bien nous vendre aujourd'hui dans certains médias financiers. Alors oui, oui, depuis que Trump est là, c'est le bordel et il y a des pans entiers de l'économie qui sont en difficulté. Mais en même temps, ces mêmes secteurs dont on parle depuis quelques jours étaient clairement surachetés depuis des mois et par moments on pouvait même se dire qu'on s'emballait un peu trop pour pas grand chose, on pouvait même parler de bulles spéculatives. Et aujourd'hui, eh bien, on remet tout simplement, gentiment, l'église au milieu du village, le village de la valorisation raisonnable. Alors bien sûr, on peut tout coller sur le dos de Trump et de ses droits de douane et son équipe gouvernementale plus que discutable, surtout parce que la plupart ne sont pas des politiciens et que leurs méthodes sont brutales et peuvent clairement surprendre un marché qui a été habitué à être dorloté, à être rassuré. Mais en même temps, quand on regarde les vrais politiciens de métier, ceux qui n'ont jamais bosser de leur vie, ceux qui n'ont jamais géré une société durant leur carrière au Congrès ou même au Sénat, ceux qui se sont goinfrés aux frais de la princesse et qui ont creusé la dette encore un peu plus chaque année, eh bien ces politiciens-là sont-ils vraiment plus compétents que les Besant ou les Musk ou autres pour gérer le pays aujourd'hui? Une chose est sûre, quasi certaine, le gouvernement qui est en place a été élu et va mettre en œuvre de grosses restructurations qui vont coûter de l'argent et prendre du temps. Trump l'a dit, on pourra juger plus tard sur le moyen terme, sachant que Trump est là pour 4 ans et que juger sa performance en se basant uniquement sur la performance du S&P 500, parce que comme certains le mentionnent, les investisseurs n'ont pas l'air d'apprécier après 8 semaines, c'est donner un tout petit peu trop de crédit aux investisseurs en question. Puisque le job de ces investisseurs en question, c'est d'aller là où le vent les porte et qu'au moindre changement de direction, on tire d'abord et on pose les questions ensuite. En gros, il faudra donc juger le bilan de Trump d'ici 12 mois et le faire aujourd'hui parce que le marché a corrigé et que c'est toute sa faute est un tout petit peu réducteur pour ne pas dire ridicule. Actuellement, le marché vit dans une incertitude des droits de douane, dans l'incertitude de la paix en Ukraine ou pas, et dans l'incertitude de voir une économie soi-disant florissante qui pourrait ralentir à court terme. Et comme vous le savez, l'incertitude, on n'aime pas. D'ailleurs, lorsque l'on prend le temps de lire un peu la presse de ce lundi matin, en dehors des articles catastrophistes qui disent qu'on va tous y passer et que c'est la fin de la hausse pour toujours parce qu'on va rentrer en récession et qu'il va falloir commencer à cultiver nos propres légumes pour pouvoir se nourrir, moi j'ai retenu trois articles qui mènent à trois réflexions différentes mais qui quand même, l'un dans l'autre, finalement se rejoignent sur le fait que les investisseurs ont besoin qu'on les rassure, qu'on les comprenne et qu'on leur tienne la main en disant que ça va bien se passer. Le premier article parle du fait que la Fed va se réunir dès demain et que ceux qui comptent sur Powell pour les rassurer et les soutenir risquent bien de plonger dans une profonde dépression dès mercredi soir. En effet, depuis la semaine dernière, les mots de Trump, qui a plus ou moins dit qu'il n'en avait rien à foutre que les marchés baissent et que ces restructurations mises en place vont prendre du temps et que ça ne serait pas facile au début, à laisser planer un doute dans l'esprit du monde merveilleux de la finance qui s'est dit Mais alors, le gouvernement ne va pas nous soutenir? Le put de la Fed n'existe-t-il donc plus? Et les sauvetages réglementaires mis en place sur le S&P 500 et ses frères depuis le début du siècle ne sont donc pas écrits dans le marbre? Et depuis, forcément, on doute. Oui, on doute très fort parce que depuis les époques de Bernanke et de son helicopter money, ou encore plus récemment les soutiens gouvernementaux pendant le Covid, sans parler du reste, on s'était habitué à recevoir un certain soutien. Mais là, depuis Trump, on a un peu l'impression que c'est démerdons-y-sich et on verra plus tard. Et puis alors, malgré cette réflexion mise en place la semaine dernière, certains se sont quand même dit « Oui, mais la Fed, elle va nous aider la semaine prochaine, alors ça va bien se passer. » Sauf que ça n'est peut-être pas aussi évident que ça. En effet, la Fed a les pieds et les poings liés depuis que la méthode Trump est en place. Aujourd'hui, la Fed sait que l'inflation semble vouloir se calmer et elle pourrait reprendre une politique de taux plus arrangeante si cela devait perdurer. Le problème, c'est que, comme les investisseurs, Powell n'a aucune visibilité sur les intentions de Trump et sur ce que sera la situation dans un mois. Et le pire qu'il puisse faire aujourd'hui serait d'agir trop vite et de le faire dans le mauvais sens. Lorsqu'on connaît l'inertie des taux sur l'économie réelle, il vaut mieux ne pas se gourer de sens au risque de devoir pagayer très fort dans l'autre sens pour corriger le tir plus tard. En conséquence, Jerome Powell risque bien de devoir s'enterrer dans un statu quo des plus dérangeants en attendant d'y voir plus clair du côté politique. Le discours de la Fed de mercredi soir risque donc de ne pas forcément apporter de l'eau au moulin des investisseurs qui ont besoin qu'on les rassure et qui sont impatients qu'on le fasse très vite. L'autre sujet du moment, c'est les discours de Scott Bessent, secrétaire du Trésor, qui s'est exprimé ce week-end et qui n'a pas forcément dit ce que l'on attendait de lui, et surtout ce que l'on espérait de lui. Le secrétaire du Trésor a simplement déclaré qu'il n'était pas inquiet de la correction boursière et que les corrections boursières étaient saines pour le marché et que dès que leur chantier serait terminé, les bourses mondiales allaient apprécier la chose et remonter comme il se doit. Bon, entre vous et moi, ça n'est pas du tout ce qu'on avait envie d'entendre. Et c'est d'ailleurs pour ça que les marchés pointent dans le rouge en ce lundi. Pourtant, Scott Bessent a raison. Et cette fois, on ne peut pas dire que c'est un politicien à deux balles qui n'y connaît rien, puisqu'il est quand même dans le domaine de la finance et de l'investissement depuis 35 ans. On peut donc résumer ses déclarations assez simplement. Soyez patient, laissez-nous bosser, et le marché remontera de lui-même. Ça n'est pas ce qu'on a envie d'entendre, soit, mais toujours est-il que c'est la réalité. Les corrections ont toujours existé, de tout temps, et à la fin, c'est toujours les bulls qui gagnent. Bessent a d'ailleurs très très bien expliqué la chose ce week-end en concluant son discours en disant
« Ce qui n'est pas sain, ce sont les marchés euphoriques. C'est ainsi qu'on obtient une crise financière. Il aurait été plus sain que quelqu'un mette un frein en 2006-2007, nous n'aurions pas eu les problèmes de 2008. Je ne suis donc pas inquiet pour les marchés à long terme. Si nous mettons en place une bonne politique fiscale, une déréglementation et une sécurité énergétique, les marchés se porteront très bien. »
Et très franchement, au-delà du bord politique, je trouve que c'est une des déclarations les plus intelligentes de ces derniers mois. Il faut prendre un peu de recul, bien sûr, mais ce qu'il dit est assez logique, réaliste et basé sur l'expérience et l'histoire de la finance mondiale. Troisième point, et j'aurais presque fini, moi qui voulais faire court, c'est le fait que depuis quelques jours, les experts à Wall Street sont tous en train de réviser leurs objectifs de fin d'année à la baisse, parce que la trouille, ça ne se commande pas. Donc Goldman Sachs ne parie plus sur les 6500 en fin d'année, mais seulement 6200, et Yardeni est passé de 7000 à 6400. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les deux objectifs corrigés sont quand même plus hauts que là où nous sommes ce matin, ce qui laisse du potentiel haussier. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que ces stratèges sont connus pour être des suceurs de roues et que leurs modifications de target sont souvent décalées de 3 mois. 3 mois en retard. En gros, ça ne sert à rien et ça veut aussi dire qu'ils sont venus après la pluie. Tout ça pour vous dire que j'ai le sentiment que le marché est actuellement un vilain petit garçon capricieux qui est prêt à se rouler par terre si on lui donne pas ce qu'il veut ou à retenir son souffle jusqu'à qu'il lui arrive quelque chose, comme disait l'autre, mais que pour le moment, il fait face à des adultes qui se foutent pas mal de ses crises existentielles. Un même vilain petit garçon capricieux qui a déjà complètement oublié le fait qu'il s'est goinfré d'une hausse surévaluée il y a quelques mois encore et qui est impatient et qui ne supporte pas de perdre. Nous sommes donc à l'aube d'une nouvelle semaine qui promet d'être intéressante, encore une fois. La Fed en sera probablement l'axe central, mais entre deux, Super Trump peut toujours intervenir à tout moment et remettre encore une fois en question toutes nos attentes, tous nos espoirs, et remettre une couche supplémentaire d'incertitude dont le clan des impatients pourrait largement se passer en ce moment. Et puis alors, avant de conclure, je voudrais encore mettre en avant une toute petite chose qui vient d'être annoncée récemment, la création d'un ETF sur le secteur de la défense européenne. Alors, je vais pas m'étaler encore une fois sur le sujet, mais ce qu'il faut retenir, c'est que cet ETF est mis par WisdomTree, qui se nomme The WisdomTree European Defense UCITS ETF, est le premier sur le secteur européen qui bénéficie d'une cote d'amour inouïe depuis que les leaders européens, justement, veulent se réarmer à coups de centaines de milliards. Et lorsque l'on compare la performance du secteur en question avec la version US, on peut se demander si on n'est pas en train de nous vendre un truc hyper cher, au top de son histoire, alors que l'on sait même pas comment les gars vont produire le matos qu'on veut leur acheter. Prenez par exemple Thales, avant que Macron décide de monter à Moscou pour péter la gueule à Poutine, les carnets de commandes étaient pleins pour les deux prochaines années. Comment vont-ils donc pouvoir accepter des milliards et des milliards de nouvelles commandes alors qu'ils n'ont même pas les capacités de production qui vont avec. Le Rafale, on envisage d'en produire 5 par mois d'ici la fin de l'année. Pour avoir une flotte qui tient la route, vous reconnaîtrez que ça prendra quand même un tout petit peu de temps. Les Allemands ont même déjà proposé d'acheter du matériel américain parce que l'Europe ne peut pas tenir le rythme. Et on veut investir directement dans le secteur européen à 100%. Regardez juste le graphique. La ligne blanche, c'est l'Europe. Et la jaune, c'est le secteur US. Pour moi, ça se passe de commentaires. Mais sachez quand même que ça existe, dorénavant, un ETF sur la défense européenne. Encore une fois, je voulais faire court et j'ai fait super long. Je vais donc vous laisser vaquer à votre journée et moi je vais retourner à mes boulettes de reine et je viendrai vous redéranger quand je jugerai que c'est opportun et qu'il y a du réseau pour vous envoyer des vidéos. Mais s'il y a un message à faire passer, c'est que nous sommes dans une phase de correction, que les phases de correction, ça arrive, et qu'à la fin, vous le savez, c'est toujours les bulls qui gagnent. Alors d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter et de revenir pour la prochaine. Allez, très bonne journée à tous. Bye bye, moi je vais me réchauffer parce que je sens plus mes doigts.